Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Catherine ne le saura jamais.
Catherine Deneuve aussi a prouté dans le masque.
C'est le titre de cet épisode.
Catherine Deneuve a prouté dans le masque.
Si elle nous écoute, Catherine, pardon, mais voilà, on est libre de t'importuner après tout.
Elle est la fin, j'allais la fin. J'adore cette énergie.
Hello.
Bonjour. Un
peu mieux que la première fois, il faut savoir qu'on a refait ce bonjour, car on ne refait pas assez souvent les interactions sociales ratées, et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait démocratiser dans notre vie. Vous écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle. Je suis toujours Mathis Grosso et c'est toujours une mauvaise nouvelle, et nous sommes partis pour 7 heures d'émission, une blague récurrente dont je ne me lasse pas. Je suis entouré d'une bande de doudingues, expression que
joyeux
dont je
luron.
Me lasse pas non plus. Oh, joyeux luron, c'est chouette aussi. Le prochain épisode, je dis joyeux luron. Qui est autour de moi pour répondre à une question absurde que j'ai choisie il y a des années et sur laquelle j'ai beaucoup travaillé pour l'affiner, cette question, la préciser, c'est faux, je viens de la trouver. Cette question, je vais commencer par te la poser à toi, Anthony, qui est à ma gauche.
Tu connais ta gauche, pardon, et ta droite.
J'ai du mal avec les liaisons parfois, du coup vraiment mon cerveau il s'arrête en mode alphabet, je ne sais pas. Ma question c'est, quel ustensile de cuisine juges-tu inutile, en particulier chez les autres ?
Alors beaucoup, en réalité, je trouve que on s'insurge pas assez contre les robots ménagers, les robots qui servent à râper avec 40 râpes différentes, et parfois c'est des lames que tu peux mettre dans un sens ou dans l'autre en fonction de l'épaisseur des rondelles que tu souhaites, ou bien de la finesse du râpé que tu souhaites, etc. Vraiment, ça m'insurge. Et il y a un autre truc comme ça qui m'énerve, qui m'horripile, c'est encore pire que les robots qui servent à les robots pâtissiers par exemple qui servent à pétrir de la pâte à ta place. Ça, en vrai, c'est utile parce que c'est
T'as déjà pétri de la pâte, c'est clair.
Mais voilà, en vrai, c'est utile parce que c'est très sportif de pétrir de la pâte parfois pendant 10 minutes. C'est interminable, c'est douloureux, ça a mal aux bras, aux épaules, etc. Ouais, c'est vraiment du sport. Donc, les robots pâtissiers, je comprends, mais les robots qui servent à mixer, râper avec 40 vraiment râpes différentes, ça m'insupporte et ça prend une place folle sur ton plan de travail en plus. Mais un autre truc comme ça, c'est les mini-mixeurs. Pour faire un smoothie ou un houmous, ou bien les mini hachoirs qui servent à faire de la mayo express.
Ouais.
Mais genre pas
assez gros pour faire des vrais trucs de recettes, vraiment juste des sauces ou des trucs un
peu... Voilà, les trucs tout petits où tu dis « Ouais, mais c'est gain de place, c'est rapide, c'est trop bien pour faire des smoothies le matin et tout machin. » Non, c'est vraiment un truc de vlogueur et vlogueuse. Genre, vraiment, dans la vraie vie, c'est pas utile en fait.
Autant avoir un vrai mixeur pour toi.
Voilà, c'est ça. Un blender, enfin un truc qui prend vraiment 500 millilitres ou plus, parce que en dessous, vraiment, c'est du gadget. J'avoue, j'en ai acheté un, genre un Ninja.
C'est vraiment, vraiment, je déteste, mais.
Là, depuis, jeté par la
non,
fenêtre.
Non, je ne l'ai pas encore jeté, j'essaie de détourner son utilisation, mais à chaque fois, je fais de la merde
chapeau,
parce que. Avant, j'avais un blender digne de ce nom, qui appartenait à mon coloc. J'allais dire paix à son âme, mais il est encore très vivant et très en forme.
Donc, le blender est à lui.
Et le blender était à lui, c'est c'était vraiment super, je faisais vraiment plein de trucs. Mais c'était un blender un peu fancy, genre qui blende à vide. Donc en fait, t'as des préparations qui sont sous vide et qui ne s'oxydent pas, donc c'est vraiment formidable.
Ah ouais, c'est technique. Hein.
C'est vraiment un truc
Je savais même pas que ça existait.
C'est vraiment un truc d'orthorexique en réalité. Hein, mais
j'adore vraiment les trucs qui ont des options où je comprends même pas l'option. Et pourquoi ça vaut 20 balles de plus que le truc d'à côté et
coup,
genre,
si
vraiment,
ça s'oxyde moins vite, et ben, les vitamines se perdent moins vite également. Mm-hmm. Donc, ça peut être aussi utile quand t'as des préparations qui s'oxydent très vite, comme des préparations à base d'avocat ou bien de pommes ou d'endives, où en fait ça peut noircir et avoir l'air moins appétissant.
Okay.
Donc la préparation. Les mixeurs sous vide, c'est utile pour ça.
Bon, prenez des notes si jamais vous allez au restaurant, posez des questions au serveur, à la serveuse. Est-ce que vous mixez sous vide ?
Non,
ça sera voilà une excellente question.
C'est quel type de robot ménager ?
Si vous voulez faire rougir quelqu'un son premier jour de travail. Voilà.
Ouais, c'est ça. Parce qu'en même temps, ils te disent non et voilà, et ils pleurent quoi.
Personne ne fait ça à part les naturopathes et leurs victimes gourouisées.
Ça aurait été une bonne question. Quelle question absurde on vous a posée dans un taf qui vous a fait paniquer ? Parce que pour avoir, du coup, vous avez tous les deux bossé chez Quick, Marie-Stéphanie. Anthony.
McDo, attends, moi j'ai travaillé
chez McDo.
Ah oui,
McDo, toi, pardon, la concurrence. C'est vrai.
Mais voilà. Bon,
Dieu sait qu'on en a connu des questions, mais du coup, pas sur le mixeur sous vide, j'imagine.
Mais j'aurais pu te dire d'ailleurs le mixeur sous vide, qui n'y avait pas pensé, qui est vraiment beaucoup plus gadget que le mixeur tout court.
C'est vrai.
Le mixeur avec de l'air, quoi.
J'ai même très l'impression d'être dans Télématin.
Oui,
pardon, je termine très vite en disant que j'avais ce blender génial en me disant ah, mais là je vais vivre seul. Et donc je vais prendre un mini blender, ça va être super. Et je vais faire des hummus minutes pour moi tout seul et des smoothies pour moi tout seul. Mais en fait, c'est débile. Enfin, autant faire du. J'allais dire meal prep, mais c'est vraiment une expression galvaudée. Mais faire une grande quantité de hummus qui se conserve très bien, que tu peux même congeler, mais un peu moins bien en décongelant le houmous parce qu'il y a trop d'eau à l'intérieur, mais c'est une autre histoire. Donc vraiment de l'arnaque. Et récemment, j'ai dû cuisiner pour 20 personnes et mon petit blender m'a vraiment énervé parce que je pouvais pas faire beaucoup de houmous à la fois. Donc conclusion, acheter un vrai blender digne de ce nom avec une taille décente et non un mini blender au hasard de la marque Ninja. Vraiment, c'est trop gadget, quoi.
Ok, au hasard, voilà. Les gens de la marque Ninja ont larmes dans les commentaires.
On vous adore quand même, on vous adore.
N'hésitez pas à commenter si vous êtes en désaccord profond avec ce que vient de vous dire Anthony, ou même en accord, puisque c'est possible aussi, ça existe.
N'hésitez pas à dire si vous avez aussi un blender de cette marque-là et dire que c'est super. Hein.
Bah oui, voilà.
Non, mais en fait, c'est bien. Je sais pas qu'on appelle ça, genre micro-boulette ou je sais plus quoi. C'est bien. Ouais. C'est vraiment un truc pour les gens qui boivent des smoothies 4 fois par jour et qui ne veulent pas faire une grande quantité de smoothies, donc ils veulent faire plusieurs fois le smoothie minute, quoi. Enfin, c'est vraiment gadget.
C'est vrai,
c'est vraiment un truc de gens qui ont du temps.
Et
ouais,
trop
et
de
nous,
temps. On n'en a pas.
C'est ça.
Tellement.
Marie-Stéphanie, toi qui n'as pas de temps, quel gadget refuses-tu dans une cuisine?
Alors, moi, il faut d'abord savoir que j'ai un robot qui fait à manger et je m'en sers très rarement. Donc en vrai, je te rejoins sur pas mal de choses.
Excuse-nous qu'Emel Wally.
En vrai. Non, en vrai, ça sert à rien.
J'ai pas compris le rapport avec Emel Wally.
Danse avec les robots.
Je sais pas, non.
Vous l'avez pas?
Non, là-bas.
Ah,
non.
Danse avec les robots qu'Emel Wally dans un chien.
Oh merde, et maintenant on l'a écoute. Hein.
Elle a même pas souligné, genre elle a
honte. T'as ri
poliment.
Je pensais que Kamel Wally avait un robot peut-être.
Bah Kamel Wally techniquement a des robots, il a designé des robots qui dansent et qui sont la seule attraction.
Et t'étais suffisamment proche de Kamel Wally pour le savoir.
Je suis très peu proche de Kamel Wally.
Kamel Wally était de ta famille peut-être, c'est ce que j'en ai déduit en l'espace des 3 secondes qui s'est passé dans ma tête.
Kamel Wally mange surtout à la cantine.
Si jamais il lance un truc de cuisine, il faudra que ça s'appelle Kamel Wally.
Il y a trop de choses sur Kamel Wally là.
Et oui, Kamel Walibi, c'est un nom que je donne, voilà. Tu le prendras si tu nous écoutes, Kamel. Je ne sais pas.
Peut-être que tu nous remercieras. Enfin, tu remercieras
du coup, Mathis. Pardon de cette interruption, tu as donc un robot chez toi.
Voilà. Et
bon, le Magimix, le fameux.
Non, j'ai le Thermomix.
Ah, ok.
Et... Même combat.
Oui. Ouais, j'allais gueuler, donc vas-y, fonce.
Non, mais j'entends les critiques.
Ça
n'empêche
coûte une fortune.
Ça coûte une fortune, c'était, pour tout vous dire, un cadeau de mariage, voilà, quand on s'est marié. Vous savez, quand on se marie, on fait des listes de mariage et on met dessus des cadeaux qu'on aimerait qu'on nous offre, des trucs absolument hors de prix.
Un drone.
Ou des trucs, tu sais, tu vas pas t'en servir, mais juste, il faut être original un peu. Par exemple, bon, l'enfant, ça, tu le fais tout seul. Après, tu te démerdes, mais... Mais bref, on nous a donc offert un Thermomix et en vrai, c'est génial, mais j'ai quand même pas le time de m'en servir, donc je m'en sers assez rarement. Mais c'est pas ce que je trouve le plus inutile, même si effectivement, ça tient énormément de place dans une cuisine. Non, en vrai, moi, ce que je trouve assez inutile, et pourtant plein de gens en ont chez eux, c'est, vous savez, toutes ces petites choses à la foire de Paris qu'on nous vend, allez, 15 euros l'un, 20 euros les deux, j'en sais rien.
Les spiraliseurs, là.
Les trucs de marché avec des démos
impressionnantes.
Ouais,
exactement. Et voilà.
Les trucs pour couper des oignons en tirant sur une corde.
Voilà.
Et ça, quand tu le vois, t'as l'impression que ça va révolutionner ta cuisine. Et en fait, quand tu l'expérimentes, bah, tu t'en sers deux fois, tu te coupes éventuellement le doigt. Et ensuite, tu le remises dans un tiroir dans ta cuisine et tu t'en resserres. Jamais.
Les gars ont 30 ans de pratique, ils font des mouvements de poignet absolument incroyables. Tu regardes la démo, t'es vraiment en mode, mais moi aussi, je vais faire de la dentelle avec des pommes de terre, en fait. Et t'arrives chez toi et bah, les urgences,
et
c'est quel numéro
voilà.
déjà tu vois, voilà.
Et tu finis par ne plus éplucher tes pommes de terre et tant pis, c'est pas grave, tu les fais cuire au four et elles sont très bonnes quand même. Mais et je sais pas si vous avez vu ça d'ailleurs, mais sur Instagram, maintenant, il y a. Enfin, pas que sur Instagram, sur TikTok aussi, je crois. Il y a énormément de contenu autour de petits tricks qu'on peut retrouver dans les cuisine. Et je trouve que c'est un peu la version nouvelle génération de ces ustensiles qu'on essaie de nous vendre dans les foires ou sur les marchés. Et ça va être des trucs totalement absurdes. Genre, je sais pas, par exemple, une boîte en plastique, du coup, pour ranger tes œufs dans ton frigo. Mais en fait, pourquoi tu n'utilises pas
un tupperware.
La boîte de tes œufs.
Ouais.
Yeah. Directement, okay. Tu vois. Enfin.
Peut-être un peu parce que c'est. En fait, enfin, sans vouloir rendre les gens parano, hein, mais en fait, les boîtes d'œufs c'est très très sale. Mais on peut s'en servir quand même.
Ah.
Mais c'est vraiment très très sale parce
après,
que.
Tu
ça
manges pas la coque.
Ah ouais. Oui.
Bah en fait tu.
Ni la boîte.
Ça sort vraiment du. Des fesses de la poule quoi.
Oui,
enfin,
bah
c'est
oui,
pas
oui.
Désinfecté et tout, mais.
Oui, on s'imagine qu'elle l'a pas créé en labo, mais enfin on espère.
Ça sort de la fesse de la poule.
La fois, mais mais après on peut, enfin c'est pas grave si vous en servez quand même. Enfin moi-même je mets mes boîtes d'œufs au frigo, mais
tu les passes à la Javel.
Je comprends l'utilité d'avoir une boîte spéciale pour les œufs, mais effectivement okay. C'est très gadget,
ouais. J'entends, ouais, j'entends carrément.
Mais
après,
il y a un mec sur TikTok, pardon, hein, mais ouais. Par rapport à ça précisément, sur les boîtes d'œufs en plastique, qui s'amuse à faire des vidéos à chaque fois où en gros, donc c'est les vidéos qui ont souvent lieu sur TikTok en collage, c'est-à-dire que vous prenez la vidéo de quelqu'un d'autre et après vous insérez votre marque, quoi. Et en gros, à chaque fois, il se fout de la gueule des meufs un peu tradwife sur les bords américaines qui sont clairement pétées de thunes et qui ont un frigo magnifique et tout surorganisé avec des trucs qui sont vraiment beaux mais très gadget du coup et vraiment de type on sort les œufs et on les met dans une boîte magnifique mais il y a des exemples encore plus tordus genre
on
des boîtes
les
à glaçons
et l'œuf se casse dans un automatiquement dans un petit ustensile aussi
ce genre de trucs mais je crois que c'est des trucs beaucoup de rangement et genre à chaque fois il illustre ça en demandant aux gens en mode est-ce que vous avez ça dans votre cuisine bah non because you're poor et c'est toujours la chute et il est vraiment en
bah
mode
oui.
Et vous avez pas ça non plus c'est dommage vous êtes pauvre et c'est vraiment toujours ça
mais je crois que c'est vachement revenu justement avec les tradwife ouais. Ces petits ustensiles et okay. Tout je te jure parce que j'ai vu ta tête Sophie de genre what mais moi je vois
mais non, j'ai vraiment l'impression de passer à côté de ma vie mais très bien
ah mais je te jure il y a des vidéos de meufs tu sais c'est en plus il y a pas de musique il y a rien c'est juste le son de
l'objet
genre voici ma morning routine pour faire mon petit déj et de A à Z tout a un contenant hyper
non mais c'est Pee-wee
enfin
je suis une vieille personne
un
pardon
truc de dingue.
Vous avez pas vu Pee-wee?
C'est quoi Pee-wee?
Pee-wee Big's Adventure, je crois que c'est le premier film de Burton et c'est un truc très accessoire comme ça où il a 30 000 trucs usage mais du coup c'est gadget as fuck et c'est vraiment délibéré.
Ouais.
Mais
c'est une référence. C'est le deuxième rêve que Mathis fait et qu'on connaît pas.
J'ai 67 ans, faut suivre hein, vraiment.
Vraiment, ma phobie dans la vie, c'est des choses qui servent à une seule chose.
Ouais.
Enfin, j'aime trop optimiser et avoir un gadget qui a une seule fonction hyper spécifique,
ouais.
ça m'énerve.
Bah voilà, bah c'est typiquement le problème de ce genre de petits ustensiles. Donc c'est pas vraiment un seul ustensile, mais c'est plusieurs. Et voilà, c'est ces trucs qui traînent au fond de notre tiroir dans les cuisines et dont on ne sait que faire et dont on regrette l'achat et qu'on se dit qu'avec 10 balles, on aurait pu acheter autre chose. Quoi.
Bah, c'est vrai.
Et 10 balles encore, c'est et... le prix
ouais,
minimum.
Si t'as de la chance, ouais.
Oui, c'est de ça. Ouf. De ouf, c'est parce que t'as eu le prix 4 acheté.
Exactement, parce que tu t'es fait avoir finalement.
Mais de ouf.
C'est ça.
Sophie, de ton côté, qu'est-ce que tu juges inutile dans une cuisine et gadget?
Alors, il y a, en fait, avec le recul, parce que je n'avais pas d'idée quand tu as posé la question, j'en ai parlé discrètement à Marie-Stéphanie, et en fait, c'est toutes les choses qui nous font croire qu'on gagne du temps.
Mm-hmm.
Dans le sens, les cuiseurs de riz, par exemple.
Mmh. Non, je suis désolée, les cuiseurs de riz, c'est génial.
Oui, mais alors, attends, à moins que tu habites avec une famille de 7 enfants.
On l'attendait les cuiseurs.
Oui.
Enfin, ah, franchement, je vis seule, j'adore mon cuiseur de riz.
T'as un cuiseur de riz? Mais qu'est-ce
bien
que ça change?
Bien sûr que oui, c'est l'une des premières choses que j'ai achetées, genre.
Mais c'est surtout parce que ça cuit mieux le
ça
riz.
Ça cuit mieux le riz, qu'est-ce
qui. C'est inratable.
Dormir par terre, oui, mais.
Et en fait, tu peux cuire bien plus que du riz dans un cuiseur de riz. Tu peux cuire du quinoa, tu peux cuire des épinards, tu peux cuire des brocolis, et tu peux faire tout ça à la fois.
Et du coup, ça va plus vite.
Ça va pas plus vite, c'est juste plus simple. Parce que tu peux vaquer, tu laves ton riz,
ouais.
Tu le balances dans ton cuiseur de riz, t'appuies sur le bouton et tu vaques à tes occupations, tu peux cuisiner d'autres choses, etc.
Et tu laves pas le riz par contre.
Non mais déjà, les gens qui lavent pas leur riz, j'arrive pas à leur faire confiance.
Ah d'accord.
J'allais demander votre opinion là-dessus.
What?
Bah alors moi, je ne lave que le riz rouge, j'achète du riz rouge. Mais le riz normal, j'avoue, je le lave rarement. Le riz blanc, quoi.
Ma phobie.
Oh merde, moi
non
plus.
Ah mon dieu,
J'avoue, mais en revanche, alors, ok. Mais c'est parce que ça coûte cher, hein, ce genre d'objet, non?
Ça coûte 50 euros.
Ouais, bah 50 euros.
C'est pas plus cher que ça?
Enfin, un bon cuiseur de riz, un bon rapport qualité-prix de cuiseur de riz, tu peux l'avoir pour 50 euros, je pense.
C'est un budget bouffe.
Tu peux en avoir des plus chers, oui, avec des étages ou je sais pas quoi, qui peuvent aussi permettre de cuire à la vapeur.
Différents types de riz.
C'est un peu du gadget.
De la musique.
Non, mais on a offert ça comme cadeau, on se moque pas par contre, Mathis, on a offert ça comme cadeau à Rochane, un membre de Mademoiselle, un cuiseur vapeur pour sa crémaillère.
Cuiseur de vapeur ou un cuiseur de riz?
Cuiseur vapeur, mais il y a un étage cuiseur de riz, je suppose.
C'est le truc haut de gamme.
Ah voilà. Non, je suis pas sûr. Hein.
Ah ouais?
Et en plus, le riz cuit à la vapeur, ça n'a pas le même goût que le riz cuit dans l'eau.
Il fait stromboscope aussi ou pas?
Est-ce que je voulais vous dire, petite astuce en même temps, pour vous qui nous écoutez, tu peux mettre ton riz à cuire dans un cuiseur de riz.
Ok.
Et mettre par-dessus tes légumes verts, par exemple, qui vont cuire à la vapeur parce que l'eau va cuire le riz et les légumes vont rester en flottaison.
Ok.
Ils vont être sur le riz qui n'est pas encore cuit, mais quand le riz va absorber toute l'eau, pendant que le riz est en train d'absorber l'eau et de cuire avec l'eau, tu as les légumes au-dessus qui vont cuire à la vapeur en fait. En partie dans l'eau, mais très vite à la vapeur quand le riz aura commencé à l'absorber. Et t'as des cuiseurs de riz un peu fancy qui ont justement un étage pour que les légumes que tu vas mettre par-dessus ne touchent pas le riz et l'eau et oui. Ne se gorgent pas d'eau autant que sans ce petit étage supplémentaire, mais c'est relativement gadget quoi. Et tu peux aussi cuire des œufs sur ton riz dans un cuiseur de riz et c'est incroyable. Ça fait des œufs un peu nuages, c'est génial.
Alors...
Ne sous-estimez pas le cuiseur de riz.
Alors, wow. je vais être très honnête, je ne suis qu'à moitié convaincue. Même si tu y as mis beaucoup de cœur. Mais j'ai vraiment le truc de. Pour moi, déjà, 50 euros, c'est quand même un sacré budget. Ça lave pas ton riz. Ça met le même temps. Enfin, je veux dire, ton riz est peut-être plus fondant.
Comment
mais...
tu le cuis, toi? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu l'égouttes?
Oui.
Oh, bah, mon autre phobie.
Quoi? Non, mais là, il faut faire un point sur comment on cuit le riz correctement.
Parce que les gens, ils font comme des pâtes. Je crois que c'est ça le truc. J'ai fait mon riz comme des pâtes.
Attends, ne nous laisse pas bête. Anthony, comment tu fais?
Non, mais ça fonctionne. Votre technique fonctionne.
Si tu n'égouttes pas le riz, si tu mets pas assez.
Ça fait pas gagner du temps. Bah, si ton cuir de riz, il t'évite à l'égoutter, d'une part. Il t'évite de le trop cuire, de le surcuire, d'autre part. Et enfin, il t'évite d'avoir utilisé une passoire qui te fait encore plus perdre de temps parce que du coup, tu dois
la laver.
Oui, ça traîne après, c'est chiant.
Et en plus.
Genre la vaisselle.
C'est assez risqué hein, de le faire à l'eau et de l'égoutter ensuite. Tu peux aussi, même si tu le fais sans un cuiseur de riz, directement dans une casserole, il suffit de savoir doser. Généralement, c'est un pot de riz pour. Enfin,
oui,
il
c'est
faut
trois
un pot d'eau en
salée,
plus que ce que tu fais de riz.
Comme ça. Ouais, okay.
Donc, si t'as trois pots de riz, tu mets quatre pots d'eau.
Je pensais pas que ça allait devenir si.
Non, mais c'est juste ça. Et en fait, comme ça, ton riz va absorber toute l'eau.
J'ai laissé tomber.
Et ça dépend de comment est-ce que t'aimes ton riz. Il y a des gens qui l'aiment un peu plus gorgé. Et du coup, tu peux mettre deux pots d'eau pour un pot de riz.
Donc, okay. Je crois que j'ai pas été aussi largué que depuis que j'ai appris le mot baudrier.
Enfin, c'est pas tant deux pots d'eau que. Ah ouais.
Vraiment.
Moi, je sais pas l'écrire, mais je connais ce mot. J'ai eu beaucoup d'histoires avec des baudriers.
B-A-U-D. Ah. Quoi?
Non, mais c'était Arnais, tout ça.
Notamment.
Attends, t'as dit que c'était risqué de faire du riz.
Parce que tu peux te brûler, tu veux dire?
Non, mais parce que tu peux le surcuire. Attendez,
c'est risqué dans ça. Parce que t'as dit, en plus, l'égoutter, c'est risqué. Moi,
des gens sont morts en égouttant le riz.
Oui, c'est ça. Il faut en revanche, briller pour ne pas prendre le risque.
Tu renverses ta casserole d'eau, j'entends tes pieds
oui,
nus.
Oui, là,
bon.
Tu te brûles.
Voilà, c'est chiant. Enfin, ouais. C'est plus que chiant.
Oui, c'est un peu risqué, effectivement.
Dans ce cas-là, manger du jambon blanc, tu vas faire genre.
Non, je suis végétarien. Mais. Non, mais attends, non. Mais ça vous est déjà arrivé de surcuire votre riz, du coup?
Ah oui, plein de fois.
Voilà, voilà. Bah voilà, alors qu'avec un cuir de riz, c'est inloupable.
Ouais.
D'accord.
C'est un kiff sponsorisé.
Non, mais non, même pas. Je pourrais vous donner la marque de mon cuir de riz qui va coûter un peu plus que 50 euros parce que je suis débile et un pigeon.
Non, non parce que je pense que tu manges beaucoup de riz.
J'adore le riz. Voilà. C'est mon féculent préféré.
J'adore. Vraiment.
Ça l'a matissé, j'adore.
D'accord. Bon, bah alors attendez. Alors du coup,
Le cuiseur vapeur, c'est de l'arnaque. Pour le coup, ce que de faire à Rochane, vraiment, vous ne l'aimez pas. Mais c'est une autre histoire.
Si Rochane, tu passes ici.
Pardon. Le cuiseur de riz, tu peux faire tout ce que tu fais avec un cuiseur vapeur.
Tu pourrais peut-être mettre un trigger warning Rochane, non?
Bien ouais. Sûr que oui, c'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure.
Mais non, mais je sais pas, ça s'appelle cuiseur de riz. Excusez-moi d'être un peu misled.
Du quinoa, du millet, du.
De la semoule, mais
c'est débile. Enfin, des carottes. Oui, tu peux mettre
de
des pommes de terre, des carottes. Bien sûr que.
Parce que ça, c'est
tout ce que tu fais avec un appareil vapeur.
Écoutez, Eva et Marie Moulaga, du coup, qui est très connue par les LM Crado, exactement. Apparemment, nous avons fait un mauvais choix de cadeau.
Non, mais vous faites ce que vous voulez, c'est des choix. Mais dernière chose, après j'arrête de défendre le cuiseur de riz parce que je vais monopoliser la parole, je suis vraiment navré. Mais les bouchées vapeur, tout ce qui est les petites bouchées qu'on peut trouver dans les traiteurs asiatiques par exemple, c'est trop bon. Ouais, les gyoza, les dumplings, c'est
incroyable. Tu peux les cuire avec.
Exactement. Et donc, sur ton riz, si t'as le petit panier vapeur de cuiseur de riz, c'est encore mieux, et ben tu peux mettre des bouchées vapeur.
Ok.
Et maison, c'est pas si compliqué.
Bon, j'ose plus rien dire, moi, de mon côté,
je
ma réponse.
Parce que. Mais attends, j'ai déjà oublié. Ah oui, toi, c'est le cuiseur de riz?
Bah alors, moi, j'hésitais. Bah oui, c'était. J'hésitais entre ça ou le truc pour faire cuire les œufs, là. Je sais même pas comment ça s'appelle. Il y a des gens
qui achètent. Casserole, je sais pas.
Non. C'est une petite machine exprès où tu mets 6 œufs côte à côte.
Je peux pas. Ah ouais.
Et tu peux faire des œufs pochés, des œufs mollets, des œufs. Ouais.
Mais ce qui manque à ces gens-là, c'est un minuteur.
Mais pas des œufs économie. Hein. Allez. Super.
J'avais au même. Mais c'est quand même mieux que la blague avec Kamel Ouali et la danse des robots.
Ouais, ça c'était. Ça
mérite. Tu montes en gamme.
Je pense que la team Poitiers qui écoute ce podcast rira à ma blague, car c'est juste que vous aviez pas la rêve de danser avec des robots.
C'est à Poitiers,
bien sûr. Qu'est-ce que tu crois qu'il y a à Poitiers à part le Futuroscope?
De la poterie?
Non.
Non, je crois pas.
J'essaie d'être drôle, mais ça rate.
Ah, de la, la poitrie. Bah oui.
Putain, on est sur un niveau, la ligue.
Super. Bon, eh bien, écoutez, de mon côté, parce qu'il faut donner une réponse. Moi, je suis une personne qui passe son temps à dire « Oh, ça sert à rien » et qui, après, se retrouve à essayer d'ouvrir une boîte sans ouvre-boîte avec une cuillère, puis un couteau et puis sa lèvre.
Un couteau, ça marche très bien, pourtant.
J'ai déjà ouvert un poussin, comme ça, en ouvrant une boîte sans...
Ouais,
avec
c'est bien la remarque d'une personne qui a des mains droites, ça. et du coup, bah voilà, donc... tout ce que je dis, je m'excuse d'avance auprès du Mathis du futur qui fera vraiment une tête en mode, bah tu vois, couillon en fait, finalement.
Non mais t'as des voisins, Mathis.
J'ai un voisin fou, j'ai vraiment un voisin qui crie en continu.
Mais t'as qu'il est gentil. Hein.
Il fait des dialogues tout seul, je suis terrifié, vraiment. J'ai cru longtemps qu'il avait un animal et cette théorie a été invalidée récemment.
De quoi? Ouais, je pense qu'il y a
Il est sympa quand je le croise dans le hall, mais vraiment il crie enculé tout le temps. Genre vraiment, je suis un peu terrifié. Donc bref.
Vous auriez un peu de sel et de poivre enculé.
Accessoirement, il porte des bateaux et voilà. Du coup, ça me.
Syndrome de la
des chaussures bateaux.
Des chaussures bateaux. Absolument. J'ai pas envie de.
Qui a appris les amants pourquoi il y avait un lacet à l'arrière des chaussures bateaux.
Pourquoi? Pour t'accrocher au bateau si tu tombes.
C'est pour accrocher tes chaussures quand elles sont mouillées.
Si c'est un truc de style, ça me dégoûte.
Enfin, ni toi ni toi. Ni Marie-Stéphanie ni Sophie n'a raison.
C'est la queue de cheval de la chaussure. Ça n'a aucun
non.
sens.
Non, Mathis, ça y est. Enfin, les blagues.
C'est juste que c'est pour resserrer la chaussure. Enfin, historiquement, c'est pour resserrer la chaussure pour qu'elle adhère encore mieux à ton pied afin que tu évites de glisser sur le bateau parce que c'est très dangereux de glisser sur un bateau en pleine mer et tu tombes dans la flotte. Quoi.
Ah, regarde Titanic.
Et,
quoi.
Donc voilà, ça sert à ajuster au mieux, à serrer le talon et l'adapter à la forme de ton pied.
Ok.
Juste, c'est un usage qui s'est tellement perdu que les marques ne rendent plus ces lacets véritablement fonctionnels et donc resserrables.
C'est que de la déco, quoi.
Oui.
Maintenant,
Ok.
Comme les nœuds sur les petites culottes, mais j'arrête de faire des anecdotes sur les...
Du coup, je balance sans contradiction...
pour le prochain épisode.
Je balance sans contradiction pour pouvoir enchaîner assez vite, avant qu'il soit 18h57, sur le fait que moi, je déteste tout ce que vend Pylône, globalement. Voilà, ça fait rire les darons, c'est rigolo, mais c'est vraiment toujours très inutile, très gadget et vraiment très coûteux par rapport à ce que c'est.
C'est ce qu'on trouve sur les foires, mais institutionnalisé, c'est tout.
C'est ça, c'est juste que c'est la même chose en désigual, quoi.
Voilà.
Enfin, vraiment, c'est prof d'espagnol land, c'est un...
Plus jeune, il y avait une boutique comme ça de gadgets de cuisine rue de Rennes à Paris. Ouais. Je passais ma vie avec ma meilleure amie dans ces boutiques-là à acheter.
Il y a plein
des
de choses à voir, par
réalité,
contre.
Mais à regarder, ouais.
Mais juste une fois chez toi, l'objet n'a plus l'attractivité du magasin. Tu vois, t'es en mode ah, c'était rigolo cette petite poule qui mettait le sachet de thé de côté. Et en fait, bof, tu vois. Bref, tout ça pour vous dire, est-ce que vous avez des commentaires de votre côté? Parce que moi, j'ai réussi à en lister un, du coup.
J'en ai trouvé un sur Apple Podcast, car je suis désespéré au point de.
D'aller chercher sur les plateformes, on incite les gens à nous écrire.
Exactement. Donc, déjà, faites-le. Hein. À défaut d'écrire dans mes DM parce que vous avez peur de moi, écrivez sur Apple Podcast.
Moi j'en ai pas, je peux déjà le dire.
Bon bah voilà, super, donc tu as perdu.
Tu es éliminé, je sais pas ce que sors du jeu.
Ouais, c'est ça, t'as pas le droit à avoir un kiff aujourd'hui. Bah moi de mon côté j'enchaîne pour remplir. Il y a Morgan Metz qui nous a envoyé qu'il y avait un festival qui s'appelle le Canaille Fest dans lequel il y a la Brigade du Kiff qui est programmée et ça n'est pas nous. Voilà, c'était le surnom historique d'une team de LMK qui s'appelait la Brigade du Kiff. Il y avait la team Sucré Salé aussi. C'est une époque que les moins de 20 ans, enfin moi notamment, ne peuvent pas connaître.
Mais
voilà.
La team Sucré Salé, c'est aussi le nom de le jingle de la baseline, le slogan de la maison La Durée, une maison de voguing. Enfin, de la
team Sucré Salé.
Ouais, Sucré Salé, ah, sauf La Durée, Sucré Salé.
Là, comme ça, on dirait un truc de Pom Pom Girl quand on sait pas
bah,
ce que
c'est. Bah, c'est un peu ça. Hein. Alors, sur Apple Podcast, il y a une certaine personne qui s'appelle Louise TMG qui nous a écrit le 3 mai 2023, je cite le titre, un podcast qu'il est super d'écouter. Bonjour, alors déjà merci à vous pour ce super moment passé, ces recos de ouf et toutes ces rigolades. Et ensuite, je suis un peu débile parce que je pensais ne pas avoir d'anecdote de star, mais en fait, j'ai la meilleure. Je m'explique. Ah oui, c'est pour ça que j'ai choisi ce truc, vraiment c'est improbable. Mon père un mât isolé au milieu des vignes dans le sud de la France, dans lequel on ne vit plus depuis le divorce de mes parents.
Un mât.
Ce mât, M-A-S.
Un mas.
Ça se dit mas. Excusez-moi.
Oui, c'est pas un truc de bateau, quoi. Genre, je me disais, ça fait vraiment aucun sens, quoi.
Ouais, non, c'est effectivement c'est mas. Bah, j'ai découvert ça l'année dernière aussi.
Mais qu'est-ce que c'est?
Bah, c'est une maison provençale. Enfin, c'est un mât.
Oui, c'est plus utile qu'un poteau au milieu d'un champ.
Oui, exactement.
Ouais, quand même.
Dur donc, d'habiter là-dessus aussi.
Cette demeure provençale a donc été louée deux fois à la grande Catherine de Neuve. Ah. Donc, Catherine a dormi dans le lit de mon père et a vécu dans ma maison.
Oh.
Quelques années après, j'ai fait un nouvel an avec mes potes au même endroit. Et j'ai également dormi dans le lit de Catherine. Oh. Mais pourquoi appeler ça une anecdote bof? Eh bien, tout simplement parce que même si elle a vécu chez moi, je ne l'ai jamais rencontrée. Voilà, qui se flex.
Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais j'aime bien l'idée qu'il y a des endroits où, genre, si tu fais un espèce de time-lapse, tu pourrais voir des trucs de ouf. Hein, genre, ou même des endroits où, des fois, c'est des espaces hyper vides la nuit et hyper fréquentés le jour. Enfin, moi, je suis fasciné par le passage comme ça et des paradoxes des endroits. Par exemple, le paradoxe d'avoir Catherine Deneuve et le lendemain, lâcher un poux dans le même lit, tu vois, tu t'en fous. Enfin, genre, tu peux avoir le sommet du glamour et moi, le lendemain.
Catherine Deneuve aussi a prouté dans le masse.
C'est le titre de cet épisode.
Catherine Deneuve a prouté dans le masse.
Si elle nous écoute, Catherine, pardon. Mais voilà, on est libre de t'importuner après tout.
J'allais la faire. J'adore cette énergie.
Oh, c'était pas mal.
Marie-Stéphanie, de ton côté, tu disais que tu n'avais pas de commentaires. Est-ce que tu veux faire un statut visé?
C'est quoi un statut visé?
Ah, vous étiez pas sur Facebook en 2004?
Insublice.
Oh là là.
Sur Twitter.
Oh là là.
Je ne savais pas que ça portait un nom en particulier.
Visé, ouais. Tu mettais hashtag statut visé après un truc un peu passif-agressif en mode les gens qui oublient leur meilleur ami après deux jours de colonie de vacances, hashtag statut visé, trois petits points.
Mais alors moi je ne mettais pas hashtag statut visé, mais je mettais, tu sais, genre, il y avait écrit Marie-Stéphanie Servos et après je mettais is. Je ne sais pas si vous voyez is.
Ah,
oui. Is, oh là là, j'ai trop bu hier soir, ou enfin, tu sais, des trucs comme ça, enfin, on s'en fout
le
en fait.
Le truc avec l'emoji un peu teubé et genre.
Alors,
tu devais mettre ton
mood. Oui, mais à l'époque, c'était en. À l'époque, c'était genre. En 2008,
en code
2009,
à l'époque.
Tu vois, donc à l'époque, c'était vraiment le moment où, tu sais, il n'y avait pas les DM. Donc, t'écrivais à tes potes vraiment sur leur mur. Coucou ma belle, ça va? Est-ce que tu serais dispo pour un café la semaine prochaine? Oui, coucou, ça va et toi? Enfin, vraiment, genre, les gens se racontaient leur life sur leur mur. C'était. Si, il y avait les DM, mais on se racontait quand même les lives sur les murs.
C'est pas la même époque que ton statut visé là.
Et du coup.
C'était avant.
C'est ça, c'était avant, et du coup, c'était quand même.
On n'avait pas le choix.
tu visais quand même des gens, tu vois. Mais tu mettais, je me souviens qu'à l'époque, la mode c'était Ease. Enfin, tu vois, genre okay. Ease. Ouais. Oh là là, trop bu hier soir.
C'est le POV. C'est juste du passif agressif.
Voilà, c'est ça. Tu visais, c'est les indirects, les sublimes.
Oui, quoi. C'est ça, c'est juste pour rager sur quelqu'un et que tout le monde soit au courant qu'on rage, quoi. Genre.
Moi je veux bien rager sur quelqu'un, du coup. J'ai un statut visé. Mon statut visé, c'est le. Putain, je vais vraiment raconter ma life là. Statut visé à destination d'un radiologue qui m'a fait une radio des seins en début de semaine. Et je suis tombée sur un mec.
Qui t'a refilé une toux, visiblement.
Ouais, voilà, c'est ça. Je suis tombée sur un mec, mais vraiment, genre, le pire vieux connard que j'avais pas vu depuis plusieurs mois. Tout ce qu'on n'a pas envie de vivre comme expérience, donc j'étais quand même seins nus sur son bureau, donc, enfin, sur son bureau, sur son fauteuil.
Oui, j'imagine.
Sur son fauteuil, et les mecs.
Sur la graffeuse.
Très bizarre dit comme ça. Sur le petit fauteuil, là, et le mec est arrivé et. En fait, il m'a
jugé,
chopé l'épaule. Ouais. Il m'a dit baissez-vous. Mais tu sais, genre en appuyant sur mon épaule, donc j'étais là, genre mec, tu me touches, tu ne m'as pas demandé en fait si j'avais envie d'être touchée ou pas. Donc voilà, il me dit baissez-vous comme ça. Bref, je me baisse et on discute. Et il me dit alors pourquoi vous venez? Je lui explique machin. Et il me dit ok, donc vous avez. Il n'arrêtait pas de me couper et pas de me faire des petites phrases un peu jugeantes et tout. Et il me dit est-ce que vous avez allaité? Je lui dis oui, bref, j'ai allaité, mais une semaine. Et il me dit ok, d'accord. Il me fait une vanne. Il me dit votre fille va probablement porter plainte contre vous quand elle aura l'âge, en rigolant. J'étais là, genre, bah pourquoi en fait? Il me dit bah pour manque de chance, vous savez, c'est tous des woke maintenant en fait. J'étais là genre, mec, wow, quoi.
Il restait une case, super, enfin, on l'a coché, c'est bon.
Non, mais c'est ça, mais genre, il les enchaînait toutes. Et puis c'était ma petite demoiselle, il m'a appelé ma petite demoiselle. Je disais, mais genre, mec, ne m'appelle pas ma petite demoiselle, en fait. C'est vraiment le truc dont j'ai horreur, en plus.
En plus, ouais. Toi, t'es là, t'es un nid, t'es vulnérable, genre.
Mais exactement. Et en fait,
hyper cringe.
C'est horrible. Et à la fois, j'avais juste envie qu'il me fasse ma putain de radio et qu'il me dise, ok, c'est bon, tout va bien, enfin, repartez chez vous. Au début, j'ai tenté un petit peu d'avoir un peu de répartie. Et après, je me suis dit, laisse tomber. Enfin, le mec a littéralement ça. Mais ouais, c'est ça. Donc voilà, donc statut visé, mec, je reviendrai pas passer des radios dans ton cabinet, oui, parce que t'es un gros loser.
From LM Crado, tout juste Crado.
Voilà, exactement.
Tout simplement.
Voilà.
Sophie, de ton côté, est-ce que tu as un commentaire?
Oui.
Bravo.
Et oui. Et c'était pour la dernière fois où je suis venue parler du yoga Bikram, finalement.
Mais oui.
Ça a réussi à séduire. Voilà.
Que j'appelle toujours le yoga Bikram malgré moi. Exact. C'est vraiment mon cerveau cassé, quoi. C'est terrible.
Bon, on m'a déjà fait la blague, mais.
Mais je sais que c'est pas. Mais moi, le problème, c'est que c'est pas une blague. Je suis juste stupide. C'est moi. C'est pas délibéré.
Alors,
donc,
la personne s'appelle Maëlys PRSL, donc Maloufeni. Mm-hmm. Donc, salut à toi et merci encore pour ton message. Elle m'a écrit le 26 mai. Hello, merci pour ton kiff sur le yoga Bikram. Tu me l'as trop bien vendu. J'ai hyper envie d'essayer. Ça me paraît être un challenge qui me conviendrait car j'ai du mal à me confronter à des situations d'échec possibles. Donc je suis trop contente d'être enthousiaste pour un nouveau sport. Merci, merci. Et puis je t'ai trouvé super dans le podcast. Tu y as toute ta place. Bisous, Maëlys.
Oh, trop c'est mimes.
Trop gentil.
Trop, ouais.
Trop mignon son commentaire.
C'est vraiment mimes. Alors Maëlys, si tu m'écoutes encore une fois, je tenais encore à te remercier. Et surtout, dis-moi si t'as vraiment été essayé. Voilà.
Ouais, sans pression.
On veut le follow-up de cette histoire.
Bah ouais, je veux la suite, je veux savoir.
Comment tu l'as vécu, est-ce que tu vas y retourner?
C'est ça, exactement. Donc n'hésite pas à me réécrire.
Alors, du coup, j'enchaîne très très vite avec une anecdote de star et je pense que je lirai le LMK pratique dans l'épisode qu'on va tourner la prochaine fois. Tout simplement parce que sinon on va manquer de temps. Donc, l'anecdote de star, ça nous vient de Mathilda Unicorn. Je pense que c'est un faux nom, encore une fois. Qui nous dit Samy Nasseri. Je ne sais pas si vous voyez qui est Samy Nasseri.
Taxi.
Ouais, Taxi, exactement. Qui a fait beaucoup de prison, notamment dans sa vie. A ouvert un magasin de CBD dans ma rue. Et il n'est pas là souvent et en incognito, généralement. La seule fois où je l'ai vu, je lui ai renversé mon café et j'ai râlé. Bienvenue à lui dans notre rue. La moitié des infos, c'est un membre de sa famille qui l'a ouvert apparemment. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Samy Nasseri a ouvert.
C'est très bof, en effet.
C'est très très bof. Star bof, anecdote bof, c'est tout ce qu'on aime. Et c'est l'occasion de passer sans plus attendre au sel de ce podcast, à savoir les kiffs. Mais avant ça, le jingle.
Jingle. Fini de rire avec vos putains de digressions. C'est l'heure de taper dans le fond, car le temps c'est du pognon. Ah ouais. Fini de rire et de dire des trucs au pif. C'est l'heure de lâcher vos kiffs. C'est l'heure de cracher vos kiffs. C'est maintenant. C'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure de lâcher vos kiffs. Pour en faire des meilleurs kiffs. C'est l'heure.
Wow.
Merci Valentin.
On a presque fait un canon et c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas réussi à le faire. Qui veut commencer? Est-ce que je commence par toi, Sophie? Tu es en face de moi.
Oui, alors...
Quel est ton kiff, du coup?
Comme je te l'ai dit...
Trop curieux de sens, ça me perd.
J'adore faire ça.
Comme je te l'ai dit, juste avant de commencer, ouais, j'hésitais entre deux kiffs.
Ouais.
J'avoue que je ne suis pas tout à fait décidée, mais je pense que je vais prendre le fait de retomber sur des livres qu'on avait eu à lire au collège et de apprendre à les apprécier.
Instant trop souvenir.
Bien, comme kiff.
Voilà. Et c'est le cas. Ma mère et ma sœur sont en train de déménager. Et du coup, avec mon frère, on retourne ces derniers temps dans la maison où moi, j'ai passé quelques années. Parce que on a emménagé là-bas, j'étais déjà en seconde. Bref. Et je vide certaines affaires et je retombe sur un livre, notamment qui s'appelle « Premier amour » de Ivan Tourgueniev. Je ne sais pas si je le prononce correctement parce que la personne est russe. Mais ah, voilà.
Je pense que c'est Niev.
Niev, ouais.
Tourgueniev.
Tourgueniev.
C'est ça. Et...
Source vraiment...
Voilà.
Je pense que cette personne ne nous écoute pas, c'est pas grave.
Et vraiment, je me suis dit, ah, je vais le relire parce que je ne me rappelais plus de l'histoire. Et à l'époque, on avait un niveau en français qui était assez élevé dans mon collège et il y a beaucoup de livres en fait, je passais complètement à côté où je les lisais. En tout cas, en 6e, 5e, il y en a plein où j'étais là, je lisais vraiment, mais je. Voilà. C'était vraiment du mécanique, quoi.
Oui, genre tes yeux, ils suivent les lignes et t'as fini le bouquin, t'en retiens pas grand chose, quoi.
C'est ça, exactement. Et c'est vraiment qu'à partir de ma 4e. Où j'avais redoublé d'ailleurs, où j'ai une professeure qui a commencé à nous donner des lectures qui, où vraiment là je me suis dit, où limite j'avais envie de les relire après. Madame Barbier elle s'appelle, je l'embrasse.
Oh. On a tous une prof de français qu'on
embrasse. C'est ça. Et en troisième, on avait eu une autre prof super.
Cette phrase qui est très Macron finalement.
Ouais.
On déconne.
Je me suis retenu très fort.
Bah voilà, la vanne nulle, c'est moi qui vais la faire et prendre le blâme.
Mais
désolé.
Celle-ci, elle était bien.
Bah tu c'est parce qu'on
avait plein de très bien, t'inquiète pas Mathis.
Mais oui, et Madame Gors donc nous donne plusieurs livres à lire en troisième, dont Premier amour de Ivan Tourgueniev. Et j'ai redécouvert ce bouquin récemment. Je vous fais le pitch très simplement, sans vous spoiler, parce qu'il se lit très vite, 100 pages. Et après d'ailleurs, je passerai au livre que tu m'as prêté il y a pas longtemps, Marie-Stéphanie. Mais non, là, c'est dans ma liste de lecture juste après. Mais du coup, Premier amour, en fait, très simplement, ça se passe fin 19e, début 20e. Quatre hommes d'âge mûr se voient. Imagine qu'ils sont un peu dans un club de gentlemen, hein, comme ça se faisait à l'époque.
Le masque et la plume.
Mmh. Voilà. Et ils se disent. Donc la discussion avance et il y en a un qui dit. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez eu des sentiments amoureux ?
Ah, mais c'est le début d'un épisode de LMK, genre.
Exactement.
C'est vraiment une très bonne question d'intro.
C'est ça, un petit peu, voilà, pour le contextualiser. Et du coup, ils sont quatre, et il y en a un qui est marié depuis très longtemps, il y en a deux qui ne sont pas encore mariés et qui vivent leur vie de célibataire comme à l'époque, quoi. Voilà.
Le dandy.
C'est ça, exactement. Et en fait, tout le livre, c'est il y en a un qui dit, écoutez, moi j'ai du mal à poser des mots comme ça à l'oral sur mes émotions. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se revoie et je vais tout écrire.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Et en fait, il se revoit et tout le reste du livre, en fait, c'est ce que cette personne a écrit son récit, quoi. Et voilà, il avait 16 ans quand il rencontre son premier amour. Et je vous spoil pas trop, mais il faut s'imaginer une jeune fille, la fille d'une princesse. Un peu désœuvré, un peu au niveau des thunes, c'était pas trop ça. En Russie, qui était très jolie et donc il y avait plusieurs hommes qui lui rendaient très souvent visite, etc. Dont le héros qui à l'époque avait 16 ans, sachant qu'il y avait d'autres personnes qui avaient. Alors la personne en question a 21 ans et avec le recul, tu dis qu'elle se faisait rendre visite par des hommes qui avaient au moins 40 ans. Voilà, c'est un peu étrange. Mais du coup, cet adolescent se retrouve dans cette assemblée de mecs qui rendent visite à Zinaïda, elle s'appelle, personnage. Je ne suis pas sûre encore de le prononcer correctement. Mais ils rendent visite à ce personnage et elle se joue un peu. Elle a un peu son harem de mecs qui lui rendent visite, qui sont prêts à faire tout ce qu'elle veut. Elle leur donne des gages, elle leur donne des... Enfin, voilà.
Mood.
C'est ça. Et puis... au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que la personne est moins joueuse, moins taquine, etc. Et du coup, le héros se rend compte qu'elle... Mais en fait, elle-même est amoureuse de quelqu'un et c'est pas moi. Et c'est aucun d'entre nous. Et il y a vraiment ce truc de qui c'est. Voilà. Je vais pas spoiler, mais voilà.
Tu peux me spoiler hors micro ?
Oui.
Et du coup,
après.
Et du coup, tu avais lu ça sans y prendre forcément de plaisir?
Bah non, parce que
tu l'as lu dans ta scolarité.
Ouais, j'avais lu ça, on l'avait eu à lire en troisième, enfin en collège quoi. Et...
C'est peut-être un peu tôt aussi, non?
Bah oui, mais je pense que... Alors je me mets à la place de la prof.
Premier amour.
Voilà, tu dis premier amour, quand t'es au collège, t'as un peu les hormones en folie, ce livre, ça va certainement leur parler, sauf que, en fait, dans les années 2000, tu mets pas les mêmes mots que, voilà, deux siècles auparavant. On est un petit peu plus... Et voilà, du coup, parce que là, c'est vraiment le sentiment amoureux. Sans aucune attirance charnelle ou sexuelle. C'est vraiment tout sur l'émotionnel, sur voilà, j'ai chaud, chaque chose qu'elle fait, en fait, des fois, il va le prendre pour lui, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, c'est...
Oui, c'est beaucoup de subtilités, de
c'est
trucs, de sous-entendus auxquels tu... à côté desquels tu peux passer. Exactement. Quand
et il est.
Quoi.
C'est ça, il essaye toujours de bien faire. Bon, ça peut être encore le cas aujourd'hui, en fait. On se reconnaît vachement dans. J'ai beau avoir 30 ans, je me dis, ça pourrait être moi aujourd'hui, mais. Mais en effet, c'est voilà, et on se rend compte qu'elle aime quelqu'un que le personnage principal connaît très bien.
Mmh.
Voilà. Et
bien.
Avec le recul, quand j'avais lu à l'époque le livre, j'étais passée complètement à côté des indices. Et en fait, là, je me dis à partir de la moitié du livre, mais en fait, c'est évident que ça va être lui.
Et c'est pas l'un des hommes qui l'a.
Non. Non, non, non. Okay. Voilà. Mais je spoil pas trop, mais voilà, mais. Donc si, je sais pas, par chance, ou malchance, hein, je ne sais pas, vous retombez sur des livres que vous avez lus au collège, à côté desquels vous dites « Ah, c'était nul », en fait, retentez, et ça peut être une bonne surprise.
Je ne relirai pas Yvain le Chevalier au Lion, voilà. c'est dit. Je suis désolé, tous les romans chevaleresques, on a eu toute une partie Moyen-Âge en 5e, 4e, je sais plus qui était vraiment dans le programme.
Oui, 5e, je me rappelle.
Qu'est-ce que c'est chiant, les trucs du Moyen-Âge. Pardon,
mais,
hein, mais...
Mais je suis d'accord avec toi quand même, et avec ce que tu disais aussi, Mathis, peut-être que je pense que parfois, au collège, que ce soit au collège ou au lycée, on nous a donné à lire des... quasi chef-d'œuvre parfois, souvent, à un âge où on n'était pas forcément très réceptif à ça. Enfin,
non.
Je pense que sur une classe de 30 personnes, si tu as 2-3 élèves qui sont réceptifs, c'est bien, quoi.
Oui,
mais
dans l'autre, tu as peut-être un élève dont le cerveau explose, tu vois, c'est possible,
ouais, c'est
mais c'est compliqué.
Ça m'est arrivé avec Madame Bovary, Flaubert. Ça va exploser.
On dirait un film français, tu sais. Genre le prof blanc qui vient gentiment te faire découvrir le classique et il y a l'élève prodigue qui arrive... Voilà.
Non, mais j'étais déjà très fan de littérature. Et
c'est trop
fait,
bien, en vrai, par contre.
Bah, j'avais adoré l'expérience, mais je l'ai relu des années plus tard, justement pour retrouver cette fulgurance, cet engouement. Et j'ai réalisé plein de choses, en fait, qu'à l'époque, je réalisais pas encore, parce qu'effectivement, Madame Bovary...
C'est dense.
C'est l'histoire d'une meuf qui épouse un médecin de campagne, qu'elle trouve chiant comme la pluie, et qui prend un amant étudiant en lettres, et un autre amant encore, qui la baratine, et qui la plaque par lettres. Et à l'époque, t'es genre, ah là là, c'est trop marrant, et tout, il l'a plaqué par lettres. Et des années plus tard, j'étais genre, mais quel connard, et tout.
Mais en revanche, j'ai pas lu Madame Bovary quand j'étais au lycée, collège. Je l'ai relu en arrivant à Paris, donc je pense que j'étais à la fac, parce que je me suis dit, bon, il faut que... Je lis, je m'étais fait une liste de classiques qui, pour moi, pour ma culture, il fallait que je les lise absolument. J'ai pas du tout aimé le personnage principal. Hein.
Bah, elle est relativement antipathique.
Ah
ouais, mais
difficile à apprécier. Ouais.
Et tout le monde était là, c'est un chef-d'œuvre. Et après, ça dépend des gens, mais quand j'arrive pas à m'attacher au personnage, en fait, généralement, que ce soit dans un livre ou.
Ouais, je comprends.
Je lâche pas, mais du coup, j'aime pas. Enfin, j'ai une mauvaise impression en lisant.
Tu te mets pas 200% dans le livre, quoi.
C'est ça. Et du coup, elle est égoïste, quoi.
Oui, c'est vrai.
Ah, elle est super égoïste.
C'est parti en club de lecture.
Oui, pardon.
Mais t'étais en train de dire quelque chose, Marie-Stéphanie.
Oui.
Je suis désolée, je t'ai coupé.
Je sais plus ce que je disais. Oui, non, je disais que effectivement, on passe à côté de choses parfois incroyables qu'on relira pas forcément par la suite, à moins qu'on se dise effectivement, ah bah c'est con, y a ces classiques-là que j'ai lus qu'il faudrait trop que je relise comme tu l'as fait. Et c'est très bien, moi j'ai une liste aussi que j'ai absolument jamais complétée, tu vois, enfin, et que je compléterai jamais, je pense, parce que je me lance dans d'autres lectures, mais... Mais ouais, c'est parfois des choses qu'on nous donne un peu trop tôt à lire, je trouve.
Oui, c'est ça.
Et puis même, je trouve que retourner à des choses qu'on a aimées par le passé ou qu'on a détestées par le passé, ça nous permet aussi de mesurer le chemin parcouru. Justement, dans le cas de Madame Bovary, par exemple, à l'époque, t'as, ah, c'est tellement romantique tout ce qui se passe et tout, même dans ces ruptures. Et avec du recul, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai traversé, je me dis, waouh, moi, en fait, c'est horrible de manipulation ou bien de mensonges, etc., quoi. Et d'humiliation aussi. Voilà. C'était la parenthèse.
Mais c'est vraiment ce truc de genre, t'as le livre, t'as l'objet et t'as ta réception en tant que lecteur. Et c'est pareil avec toutes les œuvres culturelles. Et c'est vraiment un truc que je trouve, on néglige beaucoup trop souvent. Et c'est pour ça que j'adore parler de cultural studies. Qui est une école sociologique qui pour le coup vraiment place la réception des œuvres comme un truc à part entière intéressant, parce que pour le coup, ouais, en effet, relire un livre, c'est prendre conscience des biais qu'on a pu avoir à l'époque, on a pu glamouriser des trucs, et des fois c'est pas le livre, c'est vraiment tes yeux, quoi. Et parfois c'est le livre.
Ça marche aussi avec les ex, mais bref.
c'est vrai, comme beaucoup de choses. Est-ce que c'est voilà. Bon pour ton kiff ?
Oui, bah, vous avez saisi, hein, j'espère vous avoir convaincu.
Donner le nom et l'auteur ?
Premier amour de Ivan Tourguenev. Voilà.
Trop bien. Trop bien.
Je vous l'apporterai si ça vous intéresse.
Bah, avec grand plaisir.
Mais vraiment, ça se lit très vite, ça fait aux alentours de 100 pages. Enfin,
oui, c'est vraiment très très court voilà. Pour le coup. Marie-Stéphanie, c'est quoi ton kiff aujourd'hui ?
Écoute, j'hésitais entre deux kiffs et finalement, vu qu'on a démarré sur une thématique food, je vais continuer sur la thématique food.
Okay.
Donc mon kiff du dernier LMK, c'était orienté autour du sommeil, puisque mon kiff, c'était dormir. Voilà. Et mon kiff de cette semaine, c'est manger correctement sans se faire chier à cuisiner tous les soirs. Et j'ai un peu cette quête, voilà, j'ai cette quête du sommeil, mais j'ai aussi cette quête de réussir à bouffer correctement en ne passant pas des heures en cuisine, parce que je déteste perdre du temps en cuisine. Enfin, j'adore manger, mais je suis pas fan de cuisiner. Et du coup, je me casse la tête vraiment depuis toujours, en fait, à savoir comment faire pour maximiser cette tâche dans ma vie, pour pas qu'elle me prenne un temps de dingue et que ça me permette de passer plus de temps sur autre chose et des choses que j'apprécie davantage.
Cuisine de riz.
oui, non mais oui, en vrai, j'ai en tête d'en acheter un de cuiseur de riz, donc parce que tu l'as compris, mais je foire toujours le riz quand je le cuisine et ça rend dingue mon mec parce qu'il adore le riz bien cuit, donc clairement on s'est dit qu'on en achèterait un parce que le cuiseur de riz du Thermomix ne cuit pas forcément très bien le riz, voilà.
Quoi ?
Trade.
Ouais, bah parce que c'est pas un cuiseur de riz
faire,
en fait.
C'est... T'façon...
Ouais.
Bah oui, mais c'est le concept de la machine quand même.
Non, mais qui embrasse trop étreint mal. Enfin, je sais plus c'est quoi l'expression exactement. Mais...
Exactement.
Qui trop étreint. Mal embrasse, non ? Attends, qui trop étreint ?
Me regarde pas comme si j'étais au courant de quoi que ce soit dans cet univers. Vraiment. Moi, je suis en mode.
Mais non, oui. Il cuit pas super bien. Et donc, bref. Et là, je crois que j'ai enfin trouvé la solution. Donc, et j'en suis très heureuse. Alors, ça fait même pas une semaine que je teste cette nouvelle technique.
Je suis en apnée.
Vous qui m'écoutez, peut-être vais-je vous aider aussi à enfin vous libérer de cette injonction incroyable de cuisiner tous les jours si vous aimez pas ça. Et de vous faire gagner du temps. Alors, ça ressemble au batch cooking. En vrai, c'est du batch cooking. Mais j'ai mis en place ce que l'on pourrait appeler un salad bar chez moi.
Wow, mon
Dieu.
Donc,
qu'est-ce que j'ai fait ? En gros, j'ai acheté des boîtes en verre qui vont dans le frigo.
On y revient.
Ouais, mais c'est très utile. Enfin, si ça marche sur la durée, ça me sera très utile. Bref, donc, qu'est-ce que j'ai fait dimanche soir ? J'ai cuit... mal cuit, 1 kilo de riz.
1 kilo, mais c'est énorme.
Non, mais genre, je fais à 750 grammes, j'en sais rien. D'ailleurs, parenthèse, dans les parenthèses, mais Manon Portanier m'a dit que le riz ne se conservait pas très longtemps.
Oui, effectivement, ça devient toxique au bout de quelques jours.
Voilà, donc du coup, bah, Google n'est pas mon ami.
Toxique, c'est un peu fort comme terme.
Comme les hommes.
Ça devient un peu malsain. Pas plutôt qu'il nous faut plusieurs jours pour réaliser qu'ils sont toxiques depuis le départ.
C'est vrai.
Plusieurs le paradoxe jours, c'est gentil, du riz.
Ouais.
Oui, c'est vrai.
Mais donc, sachez que Google ment parce que quand on tape conservation du riz au frigo, il nous dit que c'est 5 à 7 jours. Donc voilà, donc, je pensais que j'allais pouvoir le conserver autant. Finalement, bon, bref.
T'as juste dû manger du riz vraiment matin, midi et soir.
Un peu. Donc j'ai fait cuire du riz, j'ai fait cuire des pâtes, je voulais faire cuire des lentilles en plus, mais je ne les ai pas fait cuire finalement. Et j'ai fait cuire à la vapeur des petits légumes j'ai aussi acheté chez le poissonnier et chez le boucher de la viande et du poisson que j'ai fait mettre sous vide puisque ça se conserve plus longtemps. Et j'ai rangé tout ça dans des boîtes. Ce qui fait que le soir, quand je rentre chez moi, je me fais mon petit mix de ce que je veux. Bah en gros, je me fais un bowl, quoi. Enfin, je mets des pâtes ou, je sais pas, des lentilles quand je ferai des lentilles. Et je rajoute des carottes, des asperges, des brocolis.
Et j'ai fait pareil. Tout est déjà prêt, quasiment.
Tout est déjà prêt. Et en fait, t'as juste, soit si tu veux ajouter, enfin, pour ceux et celles qui mangent de la viande ou du poisson, ou les deux, ou l'un ou l'autre, on a juste à cuire la viande ou le poisson. Mais ce qui est quand même assez rapide, et si on veut quelque chose végé, on a juste à faire une petite sauce mais rapido, et c'est tout en fait, chauffer si on veut chauffer et pas chauffer si on veut pas chauffer, et du coup ça veut dire qu'aussi il y a beaucoup moins de vaisselle le soir à mettre dans son lave-vaisselle.
Ouais, parce que c'est vrai que c'est la préparation des légumes, c'est chiant.
Oui. Oui. Ah non. Merde. Bah, tu vois, mais c'est encore mieux. Non, mais t'as moins de vaisselle à faire.
J'allais te parler d'un truc génial pour encore mieux optimiser. Est-ce que tu connais, enfin tu connais j'imagine, mais peut-être que ça peut t'aider pour ton salade bar, les pâtes de légumineuses. Du coup, t'as surtout de glucides et de protéines dans un seul truc.
Mais quelle bonne
parce
idée.
Que les pâtes de pois cassés ou les pâtes de lentilles corail, t'as la sensation de féculent que peut te procurer des pâtes ou du riz ou autre, des pâtes de blé, et des glucides, enfin, et des protéines de légumineuses. Donc en fait, parce que tout à l'heure, t'as dit, si vous voulez une version végé, vous avez juste à faire une petite sauce. Mmh. Ça dépend de ce que sont tes autres garniture, mais en fait, si t'as pas beaucoup de lentilles, par exemple, c'est pas top niveau protéines, source de protéines.
Ça, c'est le phénomène de Charlie à chocolaterie avec tout le repas dessus. T'as trouvé la solution miracle. Vous voyez ou pas ce chewing-gum où il y a tout le repas dessus?
Oui, oui, oui.
Je vais arrêter les références à Burton, je suis désolé.
Moi, je rêvais d'avoir ça quand j'étais petit, que j'ai joué au Lego. Je rêvais d'intraveineuse.
Bah, disons que ce truc d'avoir en effet tout un repas qui est équilibré et genre où t'as pas besoin de cuisiner et que t'as le truc directement dans la bouche, moi j'avoue, il y a des moments où je suis en mode oui, très bien ça. Très bien. Du coup, tes pâtes, je vais froncer les sourcils et regarder un peu en détail.
Bah, à goûter, en fonction de ce que vous préférez en termes de goût et de texture, peut-être que ce sera plutôt les lentilles corail, peut-être que ce sera plutôt les pâtes de pois cassés. Mais en fait, c'est assez pratique.
Trop bonne idée, ouais, carrément. Bah écoute, j'y avais pas du tout pensé.
Fibre et en fer.
Ouais, j'y avais pas du tout pensé, mais t'as raison, je vais ajouter ça à ma salade bar. Je suis ravie. Mais voilà, donc vraiment, ça fait une semaine, hein, même pas, que j'expérimente ça. Et franchement, je suis ravie le soir de rentrer chez moi et de me dire, je n'ai pas à me faire à manger, littéralement. Mmh. Et je n'ai pas de vaisselle à faire, enfin, ou si peu. Et du coup, je peux faire autre chose, enfin... lire si je veux lire, enfin rien faire si je veux rien faire, enfin juste me faire ma vie quoi. C'est génial. Et d'autant plus, je sais pas s'il y a des gens qui ont des gosses parmi ceux qui nous écoutent, peut-être, peut-être pas. Moi j'ai un enfant en bas âge et c'est pratique parce que du coup je peux lui donner la même chose que moi aussi et ça m'évite de cuisiner pour elle aussi. Donc voilà, je sais pas si je viens de révolutionner ma vie ou la vie d'autres personnes, mais en tout cas pour l'instant, l'expérience se passe bien. Peut-être que je reviendrai dans 2-3 épisodes de MK en disant que j'ai lâché l'affaire, mais
on verra. Bien. Ouais, bah écoute, on a hâte de suivre ça.
J'ai une question, plus détail, c'est-à-dire que par exemple le samedi ou le dimanche, pendant une heure, tu fais... En fait c'est du batch cooking au
ouais,
final,
bah oui.
Tu vas faire cuire tous tes trucs pour la semaine.
Ouais. Ce que vous appelez le batch cooking, c'est cuisiner en gros quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est faire... Non, c'est plutôt exactement, c'est cuisiner...
Une tâche.
Non, c'est cuisiner tous tes plats pour toute la semaine. Et les mettre en Tupperware.
Oui, mais sauf que le batch cooking, t'as différents types de plats. Là, moi, en vrai, j'ai différents types de plats aussi, mais c'est juste que je les fais un peu au hasard. Ouais, voilà, je les compose en fonction de ce que j'ai envie. Quoi.
Là, ouais, c'est pas exactement pareil. J'avais une de mes anciennes chefs qui faisait ça, et le samedi ou le dimanche, pendant 3 heures, elle allait faire tous ses repas de la semaine pour elle et sa fille.
Alors moi ça m'a pas pris 3 heures parce que c'était littéralement juste éplucher des légumes, les cuire et mettre des pâtes dans de l'eau et les cuire et c'est tout. Mais oui, si tu te chauffes vraiment à faire des plats un peu sophistiqués et tout, tu peux facilement mettre 3 heures.
Parce qu'elle faisait des plats différents, tu vois, aussi. Donc, mais après, c'est 3 heures, mais après, c'est un gain de temps sur la semaine. Tu rentres, tu mets direct...
C'est pas tant que ça, au final, rapporté à ce que ça représente.
Moi, j'ai dû passer, je pense, 2 heures, ce qui est déjà pas mal en vrai, parce que j'ai passé ma soirée. Mais si tu rajoutes le temps de faire les courses et tout aussi. Mais après, j'ai pas fait à bouffer une seule fois. J'ai pas cuisiné une seule fois depuis le début de la semaine.
Ouais, ça c'est bien, ouais. Donc, tu vois.
Ouais.
Bon. Quand tu rentres tard et que t'as super faim, en fait, c'est quand même pratique, ouais. Je vois
Voilà.
Bah, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel team vous êtes par rapport à l'organisation de la bouffe, si vous êtes la team KO comme moi.
Comme moi aussi.
Mais qui se soigne en vrai. J'essaye doucement de faire des trucs. Et en fait, le fait d'avoir un copain qui cuisine pas du tout, j'ai vraiment l'impression d'être Brie Van de Kamp en comparaison. Alors que vraiment, je rappelle que dans l'échelle alimentaire, je suis à un pneu.
mais juste, Anthony, tu dis que t'es un KO, mais t'es un cuiseur de riz. Enfin, c'est un KO organisé quand même, hein.
Non mais j'ai pas dit qu'il m'en servait souvent.
D'accord.
J'adore manger du riz, mais en fait, je mange très peu quand je suis chez moi parce qu'en fait, j'oublie tout le temps de manger.
Oh non.
Et en
quand
fait,
t'es chez toi. Ah ouais.
Ouais. Parce qu'en fait, non. Enfin, j'en sais rien. Peut-être que je devrais aller voir une psy pour ça, mais j'y pense pas. Et c'est vrai que dès que je suis dehors et qu'il y a des interactions sociales et que les gens ils sont là, ah j'ai faim, je réfléchis, ah mais peut-être que moi aussi. Et après, je suis là, ah bah je vais manger alors. Et quand je suis chez moi, bah souvent, je dîne pas parce que j'y pense pas. Et si je télétravaille toute la journée, bah, le midi, ça m'arrive d'oublier aussi.
Je vais t'obliger à venir à la rédac.
Non, ça va, merci.
Pour pas que tu meurs de faim.
Non, mais je mourrai pas de faim si facilement, j'ai du stock.
Dépérisse.
Mais souvent, justement, ce que je fais pour éviter d'oublier, enfin, ce qui me fait oublier, c'est aussi beaucoup la flemme de cuisiner pour une seule personne. Et du coup, ma, comment dire,
ton ancienne colocataire, pardon, je me rappelle, elle te rappelait de manger. Tu m'avais dit.
Et souvent, en fait, ce que je faisais, c'est que j'adore cuisiner pour d'autres personnes. Et du coup, je faisais des trucs de ouf le soir quand on dînait ensemble. Mais souvent, elle était en déplacement, du coup, on vivait assez rarement ensemble. Et même, j'ai eu un colocataire après ça qui avait une certaine alimentation très très stricte. Et du coup, on mangeait jamais la même chose. Donc, en fait, il y a plein de soirs où je mangeais pas, quoi.
Cela dit, moi, avant d'être en couple et d'avoir un enfant, je bouffais pas trop non plus. Parce que tu disais flemme de faire à manger pour une seule personne. Et c'est vraiment ça, en fait. Moi, il y a des soirs où je me dis... Enfin, on mange pas toujours ensemble avec mon mec. Souvent en décalé, puisqu'il rentre plus tard que moi. Et du coup, je fais à manger, mais pour nous deux, et dans l'optique de me dire, bah, il mangera aussi. Mais parfois, je me dis, bah, en fait, j'aurais très bien pu... rien manger, quoi. Ou genre me faire trois pâtes et c'est tout. Fin...
Tout ceci n'est pas un conseil. N'écoutez pas.
Et justement, le cuiseur de riz me sauve un petit peu parce que, en fait, quand j'ai vraiment la flemme, mais que je me dis, allez, sois sain, Anthony, fais-toi un truc à manger, bah, je vais me faire deux pots de riz et au-dessus, je vais cuire des brocolis. Et comme ça, j'en aurai en stock dans mon frigo. Et du coup, à la minute, enfin, le soir où j'ai envie de manger, et ben, je me sors un peu de riz, un peu de brocolis et je rajoute un peu de tofu fumé ou des œufs ou autre. Mais ça, c'est quand je me motive un petit peu. Mais sinon, justement, mon astuce perso, et que je recommande pas, mais c'est d'avoir toujours des mozzarella et des tomates dans mon frigo. Et au pire du pire, je me fais une tomate mozza. Si vraiment j'ai la flemme et qu'il faut que je mange, je vais me faire ça, tu vois.
Ok.
Mais souvent, en vrai, je mange un yaourt ou genre un pot de glace, ou je sais pas, tu vois. Enfin, pas un pot entier, mais une boule de glace, quoi.
Les fameuses soirées à Gendat, c'est le moment...
J'adore ça.
Ah bah oui, je comprends, c'est très très bon. C'est le moment d'enchaîner, parce que le temps court, je suis désolé, avec ton kiff à toi, Anthony, de ton côté. Désolé, c'est vraiment sans transition, mais c'est l'horloge et pas moi. Et quel est ton kiff, Anthony?
Mais je voulais rebondir sur un truc que t'avais dit, Sophie, mais je ne sais plus ce que
j'avais dit que ta colocataire te rappelait de manger.
Non, avant. Mais c'est pas important, d'accord.
Tu disais que t'étais dans un chaos organisé.
Ah ouais, non, mais je suis vraiment chaotique. Enfin, vraiment, j'oublie tout le temps de manger, quoi. Mais bref, en gros, mon kiff, ça va être la musique de Maureen, M-A-U-R-E-E-N, qui est une artiste martiniquaise de musique qu'on pourrait qualifier de chata, S-H-A-T-T-A. Oui, vous êtes obligé de le dire avec ce ton-là.
À écrire en majuscule à chaque
évidemment,
fois.
Évidemment, voilà, donc je crois...
D'exclamation.
C'est ça.
J'en ai peut-être déjà parlé dans l'MK, parce que je l'avais interviewé il y a 3 ans de cela, quand sa musique avait été utilisée pour un défilé vidéo de Mugler. La maison Mugler, qui est une maison parisienne.
T'as fait un article dessus et du coup on va...
Je l'avais interviewé à l'époque, pour cet article effectivement. Ouais. Et à l'époque, bah, elle avait été très peu interviewée parce que bah, les gens ont eu du mal à reconnaître le son et tout. Et moi c'est un son que j'écoutais déjà et du coup mais c'est dingue en fait. Cette personne hyper débutante dans sa carrière musicale qui est au fin fond de la Martinique a été prise pour... comme bande-son pour ce truc, qui est majeur et qui allait devenir viral. Donc ça allait forcément donner un coup de boost de fou à sa carrière. Et effectivement, 3 ans plus tard, voilà qu'elle fait la tête, qu'elle est à la tête d'affiche de festival comme We Love Green. Du coup, on l'a vu ce week-end. Au moment où vous écoutez cet épisode, c'était il y a plusieurs semaines maintenant, mais le week-end de début juin, c'était We Love Green. Et il y avait plein de personnalités géniales sur scène, dont Maureen. Donc le week-end du 2, 3, 4 juin. Et on a pu l'interviewer pour Mademoiselle, donc c'était assez cool de la voir à nous. À l'époque, c'était au téléphone que je l'avais interviewée. Là, je l'ai vue physiquement en face à face avec Inès de la team vidéo de Mademoiselle. On l'a interviewée pour une vidéo qui va bientôt sortir ou qui vient de sortir, je ne sais pas encore. Et elle était adorable. C'était avant sa performance. On l'a eue entre six yeux. Et en gros, on a été hyper surpris parce qu'en fait, le chata, c'est de la musique qui est... Ça dépend de qui la chante, mais homme comme femme, plutôt, c'est hyper sexuel au niveau des paroles et au niveau de l'imagerie aussi de ce genre musical. Et ça va être un ton hyper nonchalant, sur des basses hyper fortes qui se prêtent particulièrement au twerk, mais pas que, à Wayne aussi, mais pas que. Et c'est une imagerie, ouais, hyper, hyper cul, hein, disons-le. Et c'est vraiment hyper libérateur en même temps. Et en fait, quand c'est des femmes comme Maureen ou Shannon qui chantent ça, c'est y a quelque chose de très émancipateur. Surtout Maureen, et justement, on lui posait cette question-là, genre, en fait, qu'est-ce que ça te fait en tant que femme de chanter ce genre de paroles? Et aussi, dans quelle mesure tu dirais que tes textes sont féministes? Et justement, l'une des chansons qui l'a faite connaître au grand public, c'est Tic, qui est hyper intéressante, parce que, en fait, elle parle de harcèlement en boîte de nuit, en fait, en milieu festif. Et elle va dire là, je veux pas toi, range ton slip, des choses comme ça. Donc, et en fait, c'est beaucoup chanté en créole, donc on comprend pas forcément tout quand on n'est pas créolophone, mais tu comprends grosso modo parce qu'il y a plein de mots en commun avec le français, évidemment, et c'est hyper inspirant. Et ce qui nous a beaucoup touché dans l'interview de Maureen, c'est qu'elle est hyper humble et presque timide aussi dans sa manière de s'exprimer parce qu'en fait, elle est très jeune et ce succès est assez fulgurant. Et assez internationale, alors qu'elle chante en créole, y compris dans des pays qui sont encore plus loin de cette culture-là. Quand elle va en Allemagne, par exemple, vraiment, ils parlent pas du tout créole.
Oui, c'est pas l'endroit où on imagine le plus la culture créole.
Et pourtant, elle cartonne là-bas.
Trop bien.
Elle cartonne là-bas et c'est assez dingue. Donc voilà, je vous recommande de regarder Maureen, ses clips, d'écouter sa musique, de danser sur sa musique, de vous amuser sur sa musique. Il y a des chansons trop cool comme Laptop, comme Tic, que j'ai mentionné. Il y a Auto qui est trop bien aussi, et Flex, qui est incroyable. Et à Wheel of Green, du coup, après l'interview, on l'a trouvée hyper touchante, hyper humble. Et dès qu'elle pouvait, elle casait des noms d'autres personnes qui l'ont précédée ou avec qui elle partage des scènes, des festivals, etc. Donc vraiment hyper généreuse dans sa manière de s'exprimer, toujours à mettre la lumière sur d'autres personnes autour d'elle, y compris ses danseurs et danseuses. Vraiment géniale, hyper généreuse. Et bien, qu'est-ce que je voulais dire pour conclure? C'était que, après, on l'a vue performer et c'était presque une autre personne. En fait, elle était beaucoup plus... extravertie et exubérante et flamboyante. Et c'était génial comme contraste à observer entre la timidité de l'interview en aparté et la bête de scène que c'était ensuite, quoi, à twerker partout et à chauffer le public vraiment en un tour de main et quelques coups de fesses, quoi. Donc voilà. Et en plus, elle a terminé avec une performance improbable où elle a repris Moi Lolita de Alizé, mais version chata. Et vraiment, c'était génialissime.
Ça doit être incroyable.
J'ai hâte que ça sorte en version studio. Donc,
c'est prévu.
Voilà. Ben, il me semble que oui. En fait, on ne comprenait pas tout parce qu'on était très loin de la scène.
Ouais.
Mais il me semble que oui, c'est prévu. Donc j'ai hâte que ça sorte. Mais ça me paraît dingue que ce soit autorisé. Donc,
pourquoi pas?
Pourquoi pas? Peut-être que c'était un remix exclu festival. Mais je ne vous le souhaite pas parce que vraiment, le monde doit écouter ce remix. Voilà. Donc Maureen, écoutez sa musique. Découvrez l'interview sur Mademoiselle. Ça va être génial. Non, vous c'est ça, mais faut de ou pas y'en laisse. On y va, on y fap. Pour ça qui les joue, les poussi fap.
Vous voulez pas laisser mon mec pour qui ça? Si nous voyons, on continue. Trop bien. J'enchaîne avec mon kiff qui parle également d'une artiste découverte à Wheel of Green, donc ça s'enchaîne assez parfaitement, il n'y a même pas besoin de transition, ce qui est parfait parce que la fatigue. De mon côté, je vous parle d'une artiste qui n'est pas du tout sur le même registre, qui est Honey Dijon, que j'ai découvert il y a quelques années aux Nuits Sonores, l'année dernière en fait, aux Nuits Sonores, qui est une DJ américaine vraiment cultissime maintenant, et comme beaucoup de grands DJ, de grandes DJ aussi, c'est pas forcément des gens très connus du grand public. C'est assez drôle parce que du coup c'est des gens qui vont clore des line-up, etc. Et si c'est pas un festival purement électro, le grand public a l'impression de pas connaître. Et pourtant c'est quelqu'un qui du coup est rodé au métier parce que du coup elle a des décennies d'expertise dans les mains. Et du coup elle a grandi dans les années 70 à Chicago. Et en fait, elle incarne vraiment parfaitement cette culture-là de mélange, en fait,
associée à des villes. Je m'explique. En fait, elle a pas mal bougé. Aujourd'hui, elle est à New York. Et en fait, Chicago, bah, l'influence de base, évidemment, dans les années 70, c'est la house, qui est vraiment bah, quelque chose qui a vraiment façonné son univers. Sauf que c'est difficile de réduire Onedie John à la house. Sachant que la house, pour la définir brièvement, pour celles et ceux qui n'ont pas écouté l'épisode où Anthony en parlait, et... bah, je vous le mettrai en lien dans la description. Tu avais parlé justement du retour de la house, notamment avec l'album du coup Renaissance de Beyoncé, et qui pour le coup est un bon album là-dessus parce qu'il rend vraiment hommage à des figures bah, très connues dans le monde de la house, mais pas forcément dans le grand public, avec des samples, etc. Et du coup, Onedie John, de son côté, bah, d'ailleurs, a remixé Beyoncé et a fait partie des artistes qu'on pu officiellement le faire. Et d'ailleurs, j'ai dansé sur du Beyoncé... bah, quand elle est passée à We Love Green, elle a aussi des influences plus techno, ce qui est un truc qui normalement est plutôt associé à Détroit, mais qui a fini par circuler ensuite. Et donc la house, pour la définir, du coup, c'est quelque chose de, qui est vraiment pour moi la revanche du disco, c'est-à-dire on va vraiment sampler des grandes divas américaines, plutôt de la communauté afro-américaine, plutôt latino et en général. Bah, dans un univers assez queer et assez marginalisé, parce que bah, du coup, c'est des genres qui ont été vraiment créés comme des contre-cultures avant que ça se mainstreamise comme c'est aujourd'hui. Et bah, elle incarne vraiment ça, parce que du coup, bah, c'est une DJ noire, transgenre, et qui parle vraiment beaucoup de ces sujets-là et de son expérience de, bah, de meuf noire DJ qui doit se battre en fait, pour qu'on lui fasse de la place encore aujourd'hui, alors que, bah, encore une fois, elle a des décennies d'expérience dans les pattes et ses sets sont toujours incroyables. Et en fait, elle arrive à vraiment nous projeter de trucs très accessibles comme bah, de la disco ou de la house vers des trucs parfois plus industriels comme peut l'être la techno. La techno est vraiment un genre de musique qui, pour le coup, va être moins facilement abordable sur le papier, dans le sens où c'est plus orienté vers le rythme peut-être que la house, et en même temps bah, les deux peuvent se marier assez bien. Et c'est vrai que moi j'aime bien le fait qu'elle puisse vraiment confondre les différents genres musicaux. On peut partir sur de la dance aussi, et en fait on se rend compte, j'ai beaucoup fait de recherches après son set, déjà parce que je cherchais à retrouver des morceaux, etc. Mais c'est vraiment extrêmement complexe quand vous commencez à vous intéresser à l'électro. En fait, vous vous rendez compte qu'il y a des toutes petites particularités qui fait que les gens vont dire « Ah non, mais ça, c'est pas du tout step, ça, c'est pas du tout de la jungle, tu confonds avec le drum and bass, machin et tout. » Et là, t'es en mode « Quoi, pardon, mais sur quels critères on admet ces trucs-là » Et du coup, là, on est sur vraiment quelqu'un qui assume cette porosité entre les genres et qui, du coup, s'est rendu inclassable et s'est rendu iconique. Et en vrai, elle est même physiquement iconique. Genre, la meuf est magnifique, une espèce de grande figure comme ça que tu vois mixer. Enfin, genre, je l'ai vu passer à un moment dans l'espace presse et j'étais vraiment en mode tu sais, elle a l'air comment dire, elle a l'air d'une star, elle le porte sur elle, enfin je sais pas, il y a des gens qui ont cette vibe là quoi, et genre vraiment j'étais en mode ah slay, et genre personne la reconnaissait, j'étais en mode voilà, bon bref. Et du coup j'ai dansé pour la deuxième fois sur son set, j'ai été interrompu par le fait que je pouvais pas m'absenter trop longtemps de chez moi parce que bah, j'avais laissé Ruby à m'attendre et que du coup je culpabilisais que ça faisait trop longtemps, donc j'ai dû partir. Mais c'était vraiment avec énormément de frustration parce que c'est bah, c'est une meuf où genre elle lance sa première chanson et je danse. Et pourtant, Dieu sait que je suis diesel en soirée et que je mets du temps à me chauffer, à me lâcher. Et là, j'en ai rien à foutre. J'ai pris mon tote bag, j'ai fait un nœud avec, je l'ai posé à mes pieds et puis c'était parti, quoi. Et pourtant, j'étais tout seul parce que mes potes étaient en mode « Ah oui, non, on va plutôt aller voir Phoenix. » Et moi, je te dis « Non !» Donc, j'étais trop content de découvrir son set. Et c'est toujours des sets très différents. Et je pense qu'il y a vraiment moyen que plein de gens passe un bon moment sans forcément être très pointu en électro, parce que justement elle a sorti des albums avec ses propres chansons avec plein de collaborations dessus, et je trouve que c'est des albums avec des chansons qui pourraient passer en radio en fait, ou qui pourraient passer en, même en synchro, c'est-à-dire repasser sur des pubs ou des choses comme ça, parce qu'en fait bah, elle a réussi à en faire un truc très cadré et tout, et pourtant elle est capable de faire des trucs beaucoup plus expérimentaux, et je suis vraiment fasciné par cette duplicité là. Et moi je vous conseille vraiment d'écouter son album The Best of Both Worlds, donc le meilleur des deux mondes, qui est sorti en 2017 et que j'ai vraiment...
C'est une référence à Anna Montana.
J'ai pas du tout cette référence.
This is the best.
Oh mon Dieu, oui. Mais vous croyez que c'est une rêve?
C'est très possible.
Anglais, c'est quand même une drôle de coïncidence. Ouais.
C'est totalement possible. Mais voilà, et je vous incite vraiment à écouter cet album. Il est vraiment très très chouette. Et ça se danse très facilement. C'est très bien pour vos workouts, c'est très bien pour vos soirées. C'est très bien pour vous déterre. Moi j'écoute beaucoup ça en faisant la vaisselle. Voilà. Onedie John, voilà, je vous remettrai le nom de toute façon dans la bio. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé quand j'avais débriefé de... Ouais, c'est possible, parce que ça m'avait vraiment déjà beaucoup marqué quand je l'avais découverte. Et c'était une soirée où, en plus, elle était programmée avec énormément de pointures de la house et de la techno, comme Floor Plan, comme Cakes d'Aquila, et puis même Kitty Smile aussi qui était là à cette soirée. Enfin, il y avait plein de gens qui étaient vraiment très chouettes dans ces univers-là, et qui, pour le coup, étaient tous des artistes en plus racisés. Donc, j'étais plutôt content que les nuits sonores favorisent cet aspect de la house plutôt qu'un truc très 9e arrondissement, on boit des pintes à 17 euros ou pas. Ce qui est un peu la dérive de la house aujourd'hui, quoi. C'était les nuits sonores de l'année dernière, donc 2022. Voilà.
C'est vrai que quand on tape dans Spotify The Best of Both Worlds, Anna Montana arrive avant.
Non,
ouais. Quelle surprise.
Cher Hélène Prado, changez ça. Tapez massivement.
Mais elle arrive juste après Anna Montana, ouais. Cela dit. Donc.
Ouais. Je sais pas dans quelle mesure c'est beaucoup écouté sur les albums et tout, mais je sais que ces sets en général vont clore les festivals. Enfin voilà, c'est quand même quelqu'un qui s'est vraiment imposé et qui accessoirement a travaillé. C'était intéressant que tu parles du fait que Maureen avait pu être synchronisée sur de la mode, enfin sur des défilés. Le défilé Mugler, parce que Honey Dijon pour le coup a collaboré aussi avec Louis Vuitton et avec Dior, je crois. Donc voilà, c'est pas non plus une nobode, quoi. Genre, elle a vraiment roulé sa bosse.
C'est une resta.
Et ce sera le mot de la fin. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce LMK mi-food, mi-littérature, mi-cuisine. Enfin, je sais pas si on peut dire trois fois mi, parce que mi, c'est pour moitié. Coup. Ouais, c'est ça.
Oui, c'est tiers.
Tiers musique.
Oui, bon, on va. N'hésitez pas à animer à ma
Encore
place.
Encore des lacunes de matin, visiblement.
Honey Dijon, c'est aussi de la cuisine. La sauce aux moutardes et miel, c'est incroyable.
Oui, c'est vrai.
Ah, ok, pardon. Ouf, ah là là, le temps
c'est
de travail.
C'est s'appelle comme ça, non?
C'est totalement possible. Alors, par rapport à la ville de Dijon, j'en doute.
Oui, mais la moutarde
on est sur
de
quelqu'un
Dijon,
qui a grandi...
c'est connu worldwide, quand même.
Oh yeah, the Dijon moutarde. J'en doute, la personne a grandi à Chicago once again. Mais bon, who knows, on ne sait pas. Oni, n'hésite pas à nous répondre si tu écoutes ce podcast. Et tu l'écoutes sans doute. L'occasion de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, une bonne vie.
Et une bonne et heureuse année.
Exactement, lâchez-nous des commentaires, envoyez-nous des anecdotes de stars, des messages boubou. Utilisez des gadgets en cuisine pour qu'on vous critique. Et
Chardonnay n'est pas un gadget, mais la solution à tous vos problèmes.
Absolument. Écoutez la voix de la sagesse sur la cuisine, Anthony, et les conseils de Marie-Stéphanie pour gagner du temps et gagner de l'espérance de vie. Et en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien le kiki. N'hésitez pas à me soutenir dans ce genre de moment.
Prévenir, en fait,
bah, j'ai essayé de vous prévenir, j'ai fait tout lentement et en attendant. Non mais bon, je... Dites au revoir, allez-y.
Au revoir.
Voilà. Bye bye.
Pire au revoir.
Bye.
Pire au revoir.